L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche.
C'est clair, la mondialisation est un échec depuis longtemps. Donc oui, évidemment, ils vont devoir tabler avec tous ces échecs, mais ils vont les admettre de façon, je dirais, partiale et partielle.
Mon invité aujourd'hui est Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du Conseil scientifique d'Attaque au Québec. Avec lui, nous traiterons du Forum économique mondial de Davos en Suisse cette semaine. Alors que beaucoup de grands dirigeants de ce monde, aussi bien dans la politique que l'économie et la finance, n'ont pas fait le déplacement, nous analyserons les chances dont dispose ce sommet pour aboutir à des résultats concrets. Ainsi, comment le Forum de Davos est-il devenu l'oracle des puissants de ce monde aspirant à l'établissement d'un gouvernement mondial sous leur contrôle? Quid du Great Reset, cher à son fondateur Klaus Schwab? Et enfin, tout ce que l'on prête comme puissance et pouvoir à ce forum relève-t-il de la réalité ou du fantasme? Réponse à toutes ces questions qui occupent les esprits des citoyens aux quatre coins du monde avec mon invité Omar Aktouf dans quelques instants. À tout de suite. Le jour même de l'ouverture du Forum de Davos où se réunit l'élite politique, économique et financière de la planète, l'ONG britannique Oxfam a publié son rapport annuel sur la pauvreté et les inégalités dans le monde. Un document accablant illustrant l'étendue du désastre humain et social des 50 dernières années, résultat d'une mondialisation inhumaine, sauvage et débridée. En effet, selon Oxfam, les 10 premiers milliardaires de la planète possèdent désormais à eux seuls davantage que les 3,1 milliards d'individus les plus défavorisés. Le document indique que les 2757 milliardaires du monde ont vu leur patrimoine augmenter davantage pendant le Covid-19 que durant les 14 années précédentes. A contrario, la pauvreté a explosé depuis 2015, s'établissant actuellement à près de 10% de la population mondiale. Ceci n'est pas le fruit du hasard, mais de décisions politiques délibérées. Une violence économique s'opère lorsque les choix de politique structurelle sont faits pour les personnes les plus riches et les plus puissantes, explique Oxfam. Ainsi, à chaque nouveau jour que le bon Dieu fait, pas moins de 21 300 personnes rendent l'âme à cause de la famine et de la malnutrition. Le monde dit libéral est en crise, comme dans les années 30, il a peur des peuples. Il cherche de nouvelles orientations pour tenir, malgré tout, et préserver l'ordre social qui convient aux grands de ce monde qui sont présents ou représentés à Davos. Pour discuter de ces questions fondamentales, chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du Conseil scientifique d'Attaque au Québec.
Professeur Aktouf, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Merci à vous.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette institution et comment justement elle arrive à imposer ses vues et ses stratégies dans l'économie mondiale?
Le nom exact qu'on lui donne, c'est le Forum, hein, le Forum de Davos. Le club, c'est plutôt le club de Rome ou le club d'Athènes, enfin il y en a d'autres. Mais c'est le Forum de Davos.
Pour rappel,
le Forum économique mondial est une organisation non gouvernementale connue pour organiser des réunions annuelles dans la station de ski suisse de Davos. Le fondateur et directeur permanent du FEM est le professeur Klaus Schwab. C'est lui qui a pris l'initiative d'organiser le premier symposium en 1971 pour discuter des perspectives de l'économie mondiale et élaborer une stratégie commune. Au début, les participants n'étaient que des dirigeants des entreprises européennes. Mais très vite, il a commencé à inviter à Davos des personnes influentes du monde entier, membres de gouvernement et chefs d'entreprise.
Ce forum de Davos, de quoi il s'occupe? Il s'occupe essentiellement de la continuation et le renforcement, même si ce n'est pas dit officiellement dans leur site et dans leurs intentions qu'ils annoncent, le renforcement de la mainmise des plus riches sur ce monde. Alors il faut savoir que ce forum de Davos est financé par, pour son fonctionnement, par 1000 entreprises membres. Donc 1000 entreprises multinationales du monde, parmi les plus riches, évidemment. Je crois que pour être admis comme multinationale, il faut avoir quelque chose comme 4 milliards de dollars, de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc des multinationales qui ont en moyenne 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, elles sont 1000, bon, il y en a peut-être qui ont moins comme chiffre d'affaires parmi les... Donc voilà ce que c'est ce forum, donc financé, on le voit bien, financé par 1000 membres qui sont des multinationales, 4 milliards de dollars d'euros de chiffre d'affaires. On voit bien que il n'y a pas là le Bénin, ni le Burkina Faso, ni l'Algérie, ni le Cameroun, ni rien du tout. Il y a les États-Unis, essentiellement les pays du Nord et de l'Ouest, donc à l'exclusion peut-être la Russie a depuis Poutine quelques entreprises là-dedans, je ne sais pas, j'ai pas vérifié ça. Mais en tout cas, donc voilà. Alors, 1000 entreprises. Alors voilà ce que c'est ce forum de Davos. Et de quoi il s'occupe, comme vous l'avez dit, c'est dans la continuation de l'esprit de la trilatérale. La trilatérale qui a été créée par David Rockefeller, David Rockefeller premier, si je me souviens bien. Et donc, David Rockefeller avait créé ça, cette trilatérale. Pourquoi trilatérale? Parce que trois régions économiques dominantes, États-Unis, Japon et Europe. À l'époque, c'était ça, trilatéral. C'est trois pôles. Et donc, il a créé ça avec le credo suivant. C'est Rockefeller qui a créé ce credo. L'économie est une chose trop importante pour être confiée aux États. Donc, il faut que quelqu'un d'autre s'en occupe. Et là, il a créé donc la trilatérale. Et le club Wilderberg, du nom de du lieu où ça se passe aussi, c'est je pense aussi en Suisse. Et donc c'est là que se réunissent en cachette chaque année. Enfin là, la première fois. Mais après ils se réunissent un peu partout dans le monde, développé, donc le monde entier, chaque année en cachette complètement. C'est à peine si c'est annoncé, mais aucun journaliste n'est admis. Aucun observateur, absolument rien. C'est des invités triés sur le volet, c'est-à-dire essentiellement les équivalents de Rockefeller et compagnie, donc les grandes multinationales, les chefs d'État, notamment des États du Nord et de l'Ouest, du capitalisme néolibéral financier, donc ce qui est le créateur de la mondialisation. Et donc ce groupe Wilderberg invite aussi les ministres des Affaires étrangères, donc les ministres des Commerces, les ministres des Finances, etc., etc. Et chaque année, en très grand secret, on ne sait même pas ce qu'est le rapport, on ne sait même pas ce qu'ils disent, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils décident, on n'en a aucune idée, mais c'est là que se décide chaque année ce qui se passe, ce qui va se passer dans le monde en secret. Et Davos, c'est supposé être plus ouvert, plus public. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'on nous fait savoir des communiqués qui sont publiés, officiel, et on met dedans ce qu'on veut, en général, pour cette année par exemple, ils vont certainement nous parler de l'échec de la mondialisation. Bon, la mondialisation, on voit bien la fragmentation du monde, l'échec de la mondialisation est en train de se consumer complètement. Ils vont sûrement nous parler du climat, de l'environnement, de l'écologie, etc. Bon, et ils vont sûrement aussi parler de la question de la guerre, et particulièrement des guerres, et particulièrement la guerre d'Ukraine, qui est en train de mettre la pagaille dans l'économie mondiale. Une banque suisse, une seule, pour donner un exemple, a perdu à cause de l'Ukraine quelque chose comme 130 milliards d'euros en 2 ans. Et une autre banque de la City, enfin plusieurs, alors ça c'est les banques qui le disent, mais toutes ces pertes sont dues aux créances non payées de financement d'armement de l'Ukraine. Parce que, comme vous le savez, la France, l'Angleterre, etc., etc., tous ceux qui financent l'Ukraine, de la guerre, bon, l'Ukraine pour cette guerre, pour cette opération spéciale, plus spécifiquement, eh bien, doivent emprunter aux banques. Et les banques n'ont absolument pas intérêt à ce que cette guerre s'arrête, comme toutes les autres guerres d'ailleurs. Chaque guerre fait qu'on emprunte aux banques, et donc en empruntant aux banques, les banques, quand elles voient les emprunteurs se multiplier, elles augmentent les taux d'intérêt, bien entendu, elles augmentent les conditionnalités, les échéances, etc., etc. Ce qui fait que dans tout ce jeu-là, il y a des banques qui finissent par perdre. Donc beaucoup gagnent, les gens beaucoup gagné avec cette
peut-être aussi, guerre. Peut-être aussi cette perte aussi, c'est un peu accéléré et aggravé par l'effet boomerang des sanctions qui ont été appliquées sur la Russie, décrétées sur la Russie, unilatéralement sur la Russie, oui. Notamment oui, sur le plan de l'énergie.
Bien
et
sûr.
Aussi après, par la suite, par d'autres pays comme la Chine et tout. Et je vais vous poser une autre question et puis vous laisser continuer. Ces gens, pourquoi actuellement, comme donc il y a c'est des centaines de milliardaires apparemment qui participent à ce genre de forum, en particulier celui de Davos, pourquoi on dit que ce forum de Davos a pris dans ces dernières années ou dernières décennies a pris le pouvoir en Europe et en Amérique du Nord? Par quel moyen? Si c'est vrai, par quel moyen?
Les moyens sont évidents. C'est-à-dire que le forum de Davos réunit, bon, par exemple, cette année, pas loin de 400 invités. 400, c'est pas rien. C'est 380, je pense, à peu près. Et donc, ces 380 ou 400 invités, c'est je vais vous dire exactement la composition. 56 ministres des Finances, c'est 30 ministres du Commerce, c'est 19 gouverneurs de banques, c'est 60 patrons de méga-entreprises, 60, un gros contingent aussi de multinationales suisses, 15 grosses, des plus grosses multinationales suisses. Mm-hmm. Bon, et 30 ministres, et 30 ministres du climat et de l'énergie, et en plus de ça, des observateurs, des intellectuels, des économistes évidemment, des spécialistes de prospective, etc., etc., du monde, qui sont pliés sur le volet et qui, évidemment, sont là. Alors, quand vous voyez qu'il y a 30 gouverneurs de banque, qu'il n'y a que des ministres des Finances, que des ministres du Commerce, que des multinationales, 15 grandes multinationales, plus grandes multinationales suisses, etc., etc., ben, vous voyez bien que c'est la quintessence et la poignée de ce qui détient le pouvoir de ce monde, c'est-à-dire l'argent.
Il y a aussi 116 milliardaires qui participent à ça.
Absolument.
Il y a Bloomberg qui a dit que s'il n'y avait pas eu des faillites qui ont été provoquées par la guerre et par la spéculation, il y aurait eu certainement, enfin ces derniers temps, il y aurait certainement plus de milliardaires, comme si c'était un signe de réussite et de bonne santé de l'économie mondiale.
Bien sûr. Mais l'économie ou la réussite de l'économie est mesurée par donc Klaus Schwab et ses acolytes néolibéraux, bon du même acabit, c'est mesuré évidemment en termes de croissance, donc de croissance du PIB, du PNB, PIB PNB par capita, etc. Les capitalisations des banques, tout ça, c'est tout ça qui est pris en compte pour mesurer les richesses. Et enfin, l'enrichissement ou le progrès, comme on dit, des pays, et surtout pas les indicateurs sociaux. Les indicateurs sociaux, comme le nombre de pauvres, le nombre de, je sais pas moi, de SDF, de gens qui tombent dans la rue, de gens qui perdent leur emploi, qui perdent leur, etc., etc., etc. Par exemple, ici, Canada et États-Unis, une des premières fois où j'ai participé à un congrès d'économie et où tous les économistes, cette année-là, on peut plus laquelle, dans ce fameux congrès, s'accorder à chanter les uns après les autres que l'économie mondiale se portait très bien, que le PIB per capita de ceci, cela était de telle base, ça a augmenté de tant pourcent, de tant, de. Et j'étais le seul à dire, écoutez, mais vous oubliez que le nombre de pauvres et de sans-abri aux États-Unis a été multiplié par 3. En France, il a été multiplié par 4. En Angleterre, avec Thatcher et compagnie, il a été multiplié par 10. Alors, de quoi vous parlez, là? Eh ben, j'ai eu un tollé de réponses. Monsieur Actouf, nous on parle d'économie et vous parlez de société. Alors là, ça, il faut que les gens le comprennent. C'est que dans la mentalité néolibérale, particulièrement impulsée et dominée par la pensée, évidemment, nord-américaine, lesquelles possèdent le plus grand nombre de Nobel dits d'économie, eh bien, l'économie marche bien quand ces chiffres augmentent. Et donc, ils font une différence entre ce qu'est l'économie et ce qu'est le social. Alors, si le social va mal, pour eux, c'est pas la faute à l'économie. C'est pas parce que cette part de PNB ou cette augmentation de PNB est accaparée par 50 personnes, ou par 200, ou par 300. Non, c'est parce que les millions d'autres personnes ne savent pas se débrouiller pour devenir millionnaires ou milliardaires. Et donc, ceux qui le deviennent n'ont aucune responsabilité là-dedans. Et ça vient du calvinisme, etc., de transformation du protestantisme calviniste qui prétend que chaque individu, comme l'a dit Thatcher ou Grable, je pense qu'il s'appelait comme ça, donc le président d'Australie, avant qu'elle ne bascule de la social-démocratie au néolibéralisme, chaque génération doit se suffire, chaque famille doit se suffire, chaque individu doit se suffire. Et donc le PNB ou le PIB que fait le pays, ben, si c'est 50, 60, 70, 200 super riches qui l'accaparent, ben, c'est ça l'économie. Et ce qui arrive au niveau social, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Donc, alors voilà encore une forme de pensée, de réflexion sur l'économie qui marque le groupe de Bilderberg, et le forum de Davos. C'est tous des gens qui pensent comme ça. C'est-à-dire, les pauvres, s'ils sont pauvres, c'est leur responsabilité. C'est leur faute. C'est pas. Et si le PNB, le PIB augmente, eh ben, il augmente pour ceux qui savent l'augmenter. Et ceux qui savent l'augmenter, ben, c'est pour eux. C'est tout. Voilà, enfin, ceux qui savent. C'est-à-dire qui peuvent. C'est-à-dire à qui on permet de le faire. Alors, donc, voilà pourquoi Davos est tellement puissant. Il regroupe tout ce qu'il y a ce qui détient le nerf du pouvoir total sur cette planète, c'est-à-dire l'argent. Et donc, à partir de là, n'importe quel pays, comme l'a dit Eisenhower avant de démissionner, et ça c'est quelque chose qui n'arrête pas de m'interloquer, de m'interpeller, un président comme Eisenhower qui dit, avant de quitter le pouvoir aux États-Unis, attention, à l'adresse du futur président des États-Unis, attention, méfiez-vous du complexe militaro-industriel parce que il va tout dominer, il va nous mener à la catastrophe et à la fin de la démocratie, et c'est un danger pour la démocratie, etc., etc.
Pour rappel,
pendant la Seconde Guerre mondiale, Dwight Eisenhower a dirigé les quartiers généraux alliés lors de l'offensive en Afrique du Nord, en Sicile et en Italie. Il est devenu ensuite commandant suprême des forces alliées en Europe. De 1953 à 1961, Eisenhower était président des États-Unis et c'est John Fitzgerald Kennedy qui lui a succédé.
Bon, Eisenhower, on voyait bien dans son discours que j'ai écouté, on voyait bien qu'il ne pouvait pas en dire plus. On voyait bien qu'il pouvait en dire plus, qu'il pouvait citer des noms, qu'il pouvait citer des entreprises, des banques, des je sais pas quoi, etc. Mais non, alors moi, ça n'arrête pas de m'interpeller, de savoir que tout le monde le sait, enfin mes collègues à HEC Montréal, les économistes, les malins, les politiciens le savent, mais ils font comme si Eisenhower n'avait jamais dit ça. Alors voilà d'où vient ce pouvoir. C'est ce fameux complexe militaro-industriel. Et dans le industriel, évidemment, Eisenhower inclut les banques, Wall Street, etc., les Rothschild, tout ce qui s'ensuit. Alors, donc, voilà pourquoi ce groupe a tellement de pouvoir.
D'accord.
Et puis, à travers les personnes qu'il réunit, qui sont des personnes des pays les plus puissants du monde, du Nord et de l'Ouest. Je crois que cette fois-ci, à Davos, il y a deux ou trois représentants de l'Afrique, j'ai oublié lesquels. Et puis la Chine n'y est pas.
Il n'est pas venu. Normalement, c'était le président de l'Afrique du Sud, mais il n'est pas venu.
Et ah bon, ok.
Le président chinois aussi n'est pas venu.
Non.
Le président n'en parlons pas.
Non plus. Non. La Chine a envoyé le vice-premier ministre.
Voilà, qui va quitter ses fonctions dans 10 jours à peu près. Autant dire qu'elle ne voulait pas être représentée. Et il y a aussi George Soros, le mania de la finance qui n'est pas venu cette fois-ci. Donc, il y a certains qui parlent un peu de l'échec de ce sommet, d'autres qui temporisent pour voir de quoi il en sortira. Mais vous avez développé quand même une idée que j'aimerais bien que vous approfondissiez, Monsieur Atou, parce que cette idée-là, elle travaille énormément la culture générale et sociale, actuellement, pratiquement dans tous les pays du monde. Donc, dans ces forums-là, en particulier concernant les milliardaires, on fait comprendre, en particulier par l'idéologie et la culture et les médias, que s'ils ont réussi, c'est parce que c'est des super intelligents et qu'ils sont capables de penser, de créer de la richesse, comme un peu Elon Musk, qui vient de couler son entreprise et Twitter après l'avoir acheté, et que les autres, s'ils n'ont pas réussi, ou qu'ils sont, comme on disait, des centaines de millions, voire de milliards, qui sont dans la pauvreté et dans la déshérence, ben c'est à cause d'eux.
Oui, c'est leur responsabilité.
Est-ce que en quoi ça tient ou ne tient pas à la vérité? Et ces gens, s'ils deviennent milliardaires, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qui dit que c'est parce que ils ont pillé la majorité de l'humanité?
Bon, c'est une question vaste quand même, mais je vais essayer de répondre le plus brièvement possible. Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est d'où vient cette idéologie-là. Cette idéologie-là vient d'un mélange du protestantisme calviniste. Alors, il ne faut pas confondre le protestantisme calviniste de Jean Calvin et celui de Martin Luther, qui est le luthérianisme, qui est le protestantisme de l'Allemagne et de la Scandinavie et du sud de la France. Et ce protestantisme-là, le luthérianisme, est plus humaniste, un peu comme la doctrine sociale de l'Église de Saint-Thomas d'Aquin, dont Martin Luther s'est beaucoup inspiré, et qui vient, dont les 90 tomes de la Somme théologique de Saint-Thomas d'Aquin, qui a établi cette doctrine sociale de l'Église, etc., dont s'est inspiré Martin Luther, vient essentiellement des travaux et des commentaires de Averroès, Ibn Rushd, qui était musulman. Donc les choses sont assez cocasses hein, dans l'histoire. Donc alors Calvin s'est décrété alors qu'il était une espèce d'agent de change. Quand on voit sa correspondance, c'est essentiellement une correspondance de banquier, de comptable entre la Suisse, Genève, Lyon, etc. Il s'est autoproclamé continuateur de Luther et le début de tout ça, c'est qu'il a répondu à une lettre d'un calviniste français. Un petit seigneur de la région de Beauce de France, ce qu'on appelle la lettre de 1695, si j'ai bien connu, lettre de 1695 ou 1595, où ce seigneur calviniste lui demande est-ce que Dieu permet de faire de l'intérêt, c'est-à-dire de l'usure, parce que l'usure et l'intérêt, c'est un péché mortel. Est-ce que Dieu permet de faire de l'usure et de l'intérêt si je prête à quelqu'un et qu'il y a risque? Qu'il y a risque de manque à gagner et risque qu'il ne me rembourse pas. Eh bien, Calvin a répondu oui. Dieu le permet. Alors, vous pouvez prêter à lui. Alors là, ça a marqué une rupture radicale dans la pensée financière, économique, etc., etc., de l'Occident, notamment de l'Occident protestant, c'est-à-dire calviniste, anglican en Angleterre. Alors, les anglicans en Angleterre, ils ont tout simplement rompu avec Rome et ils ont adopté le prayer book, donc le livre de prière de Calvin. Et c'est un mélange de calvinisme et de catholicisme qui est devenu l'anglicanisme. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont mélangé avec tout ça une conception ou une forme d'analyse et de développement, etc., de saint Thomas d'Aquin. Saint Augustin qui a parlé de la grâce. La grâce, c'est-à-dire ne cherchez pas à obtenir la foi par votre volonté, etc. C'est Dieu qui un jour vous donnera le signe. Il vous dira, voilà, la grâce, et voilà, tu as la foi. Donc, ne la cherche pas, attends, elle va venir à toi. Ça, on appelle ça la grâce. Et de l'autre côté, en France, les jansénistes, qui étaient des catholiques et des chrétiens extrêmement rigoureux, extrêmement rigoristes, dont Blaise Pascal, eux, avaient établi l'idée de prédestination, qui s'inspire un peu aussi de Saint-Augustin. Donc, la prédestination, ça veut dire que le salut de l'âme, de votre âme, ne dépend absolument pas du nombre de fois que vous allez à l'église ou du nombre de fois que vous faites l'aumône, du nombre de fois que vous faites des flagellations ou je sais pas quoi, etc. Le salut de votre âme, donc votre âme ira au paradis par prédestination, c'est-à-dire que Dieu l'a choisi avant votre naissance. Donc avant votre naissance, Dieu a choisi si votre âme va aller au paradis ou pas, ce qui s'appelle la prédestination et qui est un peu assimilé à la fameuse grâce de saint Augustin. Donc c'est Dieu qui vous donne la foi, c'est pas la peine d'aller la chercher par vous-même, etc. Bon. Et donc, ils ont mélangé tout ça, et ça a donné la mentalité américaine qui domine aujourd'hui, qui répond à votre question. Alors, cette mentalité vient de là, c'est-à-dire, Dieu vous donne aussi ce qu'on appelle la vocation, the calling en anglais. En allemand, c'est Arbeit als Beruf, par exemple, le travail comme vocation, mais c'est dans un autre sens. Chez les Allemands, c'est beaucoup dans le sens de valeur d'usage. La valeur d'usage et de l'économie réelle qui rend service à la société, à la communauté. Ça, c'est dans le luthéranisme, c'est autre chose, mais c'est quand même bon, apparenté. Alors, chez les calvinistes et les anglicans qui ont donné l'idéologie dans laquelle se mêle la religion, donc à partir des États-Unis, qui s'est répandu avec le néolibéralisme et la littérature économique et la littérature managériale qui a suivi, ce que vous dites, vous êtes des génies, vous êtes de ceci, de cela, donc prédestiné et vocation. Alors Dieu vous donne une vocation sur Terre, par exemple, il vous donne la vocation d'être un cordonnier, mais il va vous donner des signes concrets durant votre vie de cordonnier qui vont vous faire comprendre si vous êtes élu et si vous avez eu la grâce ou non. Et ce sont des signes donc de réussite dans votre vocation. Alors qu'est-ce que c'est les signes de réussite concrets dans ma vocation de cordonnier? C'est l'argent que je gagne enfin en étant cordonnier. Donc plus je gagne d'argent en étant cordonnier, plus j'ai des signes de Dieu comme quoi je suis élu, prédestiné et que j'ai la grâce. Et on y ajoute, il ne faut pas intervenir dans la volonté de Dieu. Donc un Américain, un Anglais, un Français qui a adopté maintenant la mentalité néolibérale ou même un Algérien qui a adopté la mentalité néolibérale ne sait pas qu'il a adopté ça aussi. Il a adopté le fait que si je réussis, c'est parce que c'est Dieu qui me donne des signes de cette réussite et ces signes de réussite et ces signes et leurs effets, qui est l'argent, je dois les garder pour moi parce que c'est péché, je n'ai pas le droit d'intervenir dans la volonté de Dieu et d'aller partager cette richesse avec quelqu'un d'autre.
D'accord.
Ou la mentalité néolibérale, donc, qui fait que... Alors, pour justifier de façon plus rationnelle.
Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du conseil scientifique d'attaque au Québec. En résumé de cette première partie, il est important de noter, selon mon interlocuteur, qu'il est illusoire d'espérer même une seconde que les personnes réunies à Davos prendront des résolutions et des décisions pour changer la direction libérale de l'économie. La raison en serait leur présence dans les rouages de l'État, soit directement ou indirectement, et le fait qu'ils tiennent les gouvernements par la gorge à cause de leur mainmise sur les capitaux. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche sur Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du conseil scientifique d'attaque au Québec. Plus de 50 chefs d'État et de gouvernement sont venus à Davos pour un forum économique en pleine incertitude de la situation en Ukraine à la crise énergétique en passant par le risque de récession. Néanmoins, en dehors du chancelier allemand Olaf Scholz, aucun autre dirigeant du G7 n'a fait le déplacement cette année, y compris le président américain Joe Biden. Même topo pour les pays composant les BRICS. Les chefs d'État de la Russie, de la Chine, du Brésil et de l'Afrique du Sud pointent tous sur la liste des absents. Même George Soros, mania de la finance internationale et habitué de l'événement, n'est pas venu. Par ailleurs, le couple Zelensky, le président de l'Ukraine et son épouse ont chacun eu l'occasion de s'adresser au présent en séance plénière. Ainsi, peut-on dire que le libéralisme aussi bien que le forum de Davos sont entrés en mort lente mais certaine? Le nombre et le poids des personnes absentes sont-ils le signe de l'échec de cette rencontre? Les grandes puissances émergentes composant les BRICS sont-elles en train d'imposer une nouvelle direction et architecture dans la gestion des affaires du monde?
Donc je reprends le fil et je réponds à cette question. Alors le fil dont je parlais, c'était cette espèce de conviction qu'on a pris, qui était fort bienvenu quand les premiers Anglais ont conquis, enfin, sont rentrés aux États-Unis pour créer un nouveau monde, soi-disant plus juste, etc., etc. Ce sont les gangsters et les escrocs qui ont gagné et qui sont devenus des Rockefeller et des Vanderbilt et des machins, les énormes fortunes qu'on connaît. Alors après, pour échapper, donc, milieu du XXe siècle, à peu près début milieu du XXe siècle, pour échapper à cette idée un peu irrationnelle, un peu pas très scientifique, etc., de oui, c'est la religion, c'est de Dieu, c'est le bérouf, c'est la vocation, c'est je sais pas quoi, etc., c'est les signes de prédestination qui font de toi un riche. Alors, pour rendre ça plus scientifique, plus acceptable, enseignable dans les écoles de business economics, dans les écoles de business school, etc., etc., on a inventé les théories du leadership. Et ces théories du leadership, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Rockefeller, s'il est Rockefeller, c'est parce que c'est un Einstein. C'est super. Alors, il y a une confusion totale, États-Unis, Canada notamment, et maintenant ça commence à aller à travers le monde, entre être intelligent et être riche. À tel point qu'il y a même une chanson, un blues célèbre, dont les paroles disent « If you're so smart, how come you ain't rich ?» Si tu te dis si intelligent, comment se fait-il que tu n'es pas riche ? Alors voilà. Donc, on a voulu ajouter une justification scientifique, entre guillemets, de théorie du leadership, etc., etc., comme quoi il y a des êtres humains plus extraordinaires que les autres, qui ont de la vision, qui ont de l'intuition, qui ont le sens du risque, qui ont ceci, qui ont cela, qui ont l'intelligence des chiffres, qui ont l'intelligence du futur, qui ont l'intelligence, enfin, au-dessus des mortels, et qui donc deviennent riches parce qu'ils sont des étoiles, des stars, des génies, etc., etc. Alors, Joseph Stiglitz, par exemple, je suis pas le seul, moi j'ai écrit ça aussi dans Stratégie de l'Autruche, et dans Management en tradition et renouvellement, mais je l'utilise aussi, notamment dans Harry Mintzberg, dans Managers, Not MBAs.
Je rappelle que Joseph Stiglitz est un prix Nobel d'économie.
Exactement.
Il a été économiste en chef à la Banque mondiale et aussi économiste en chef de Bill Clinton.
Oui, absolument, pendant 8 ans. Et 5 ans à la Banque mondiale. Donc, Nobel d'économie 2001. Ben, il a écrit la grande, notamment le Roaring Nineties, qui est traduit en français sous le titre de La Grande Désillusion, oui. Il a écrit textuellement ceci. Parce que là, il a quitté Clinton, il a quitté la Banque mondiale, il a tout quitté, donc il pouvait se lâcher. Et donc il a écrit ceci, entre autres, on a tellement mis dans la tête des riches, des dirigeants, des managers, etc. Quand il dit « on », qu'est-ce qu'il veut dire ? Comme Mintzberg, d'ailleurs, dans son manager, pas des MBA. Et il veut dire les professeurs d'économie néolibérale, les écoles de gestion, les écoles de business economics, tout ça, où tout ça se concocte et se théorise. D'autant plus que les professeurs, etc., etc., de business economics et de business school se financent pour leur chaire, quand ils ont une chaire. Enfin, c'est pas comme en Europe, vous méritez une chaire à partir de vos travaux qui sont transcendants et que vous êtes, enfin jusqu'à présent, mais maintenant ça commence à changer, vous êtes proposé par des pairs internationaux, nationaux, etc., comme étant quelqu'un qui a fait avancer le domaine, qui a ceci, donc vous méritez une chaire. Ici, non. Ici, c'est une entreprise qui vous le paye. Canada, États-Unis, maintenant l'Angleterre, etc., c'est une entreprise qui vous paye. Alors, vous écrivez un livre sur le PDG, comme l'a fait celui qui a écrit sur Jack Welch, par exemple, le PDG de General Electric, eh bien, le PDG de General Electric vous paye une chaire et tout d'un coup, vous êtes titulaire de chaire, blablabla, etc., etc. Et donc, c'est de cela que parle Joseph Stiglitz. Donc, ces gens-là qui se font financer par les entreprises privées et qui théorisent ce que doivent faire, ce que doivent enseigner les écoles de business economics et de business school parce qu'elles-mêmes se comportent comme des business, parce qu'elles sont très chères, c'est très cher d'étudier dans ces écoles-là, particulièrement aux États-Unis, il faut être millionnaire. Donc, il faut attirer les enfants des riches. Et pour attirer les enfants des riches, on enseigne que les riches sont riches parce qu'ils ont des cerveaux qui sont le double du cerveau d'un noir. Ils ont des cerveaux qui sont le triple du cerveau d'un arabe, ou d'un pygmée, ou d'un je ne sais pas quoi, etc. Il y a même un sociobiologiste qui s'appelle Oscar Lewis, qui a écrit un livre qui s'appelle Sociobiology dans les années 80 ou 90, où il écrit textuellement ce n'est pas la peine de donner des bourses ou des pré-bourses ou des financements à des gens qui en ont pas foncé, parce que plus, et ça il le démontre génétiquement, c'est un biologiste, hein, parce que génétiquement, les gènes blancs conduisent à être intelligents, et, etc., et inventeurs, et super et concepteurs de choses inouïes, alors que plus vous avez la peau foncée, donc plus vous allez vers le noir, plus vos gènes sont limités. Ils ne peuvent pas conduire à être entrepreneur, inventeur, etc. Donc, c'est pas la peine de donner des bourses aux noirs, aux latinos, tout ce qui a plus. Ça va jusque là. Mm-hmm. Alors voilà, donc, vous imaginez bien, les familles riches, américaines, anglaises, canadiennes, françaises, etc., etc., elles envoient leurs enfants étudier ça. Ben, c'est du miel pour eux. Alors voilà, oui, parfaitement, vous avez raison. Joseph Stiglitz le dit. Donc, il ajoute, on a tellement mis dans la tête de ces gens-là qu'ils servent la société, qu'ils servent le monde, qu'ils sont là au service du bien-être de milliards d'individus dans la planète. On leur a tellement mis dans la tête qu'ils servent, qu'ils se croient permis de se servir. Alors, par exemple, il donne l'exemple, je pense, si je me souviens bien, d'un des PDG de Walt Disney qui se payait 500 millions de dollars de salaire par an. 500 milliards. Et ici au Canada, récemment, il y a deux PDG qui ont mis en faillite Bombardier, qui était le fleuron de l'aéronautique canadienne, qui sont partis en retraite après avoir mis l'entreprise en faillite, mais ils sont partis avec 15 millions de dollars de primes, alors qu'ils ont mis l'entreprise en faillite, et des dizaines de milliers de chômeurs. Alors on peut même pas dire que c'est des gagnants, mais cette idéologie-là, vous avez raison, est parfaitement rodé, parfaitement fabriqué, parfaitement formaté,
d'accord.
Et elle est dans le forum de Davos à plein. Alors, okay. Pour répondre à... Oui.
Justement, je vous laisse répondre sur la question-là, mais je rebondis quand même parce que c'est très important de comprendre comment ces gens-là pensent, et puisque ça a un caractère même religieux, donc ils ne seront pas prêts à lâcher le pouvoir, c'est impossible. Dans le monde, ou à accepter d'autres pôles de décision, la Chine, la Russie...
Surtout pas. Et dans le discours de Eisenhower auquel je faisais référence auparavant, eh bien, il y a des gens en filigrane sur cette idée que les États-Unis, enfin le complexe militaro-industriel auquel il faisait allusion, fera tout pour détruire ce monde plutôt que perdre le pouvoir qu'ils ont. Donc oui, absolument. Ça, ce que vous dites est tout à fait exact et vrai, et soutenu par le forum de Davos, même de façon inconsciente, même de façon, quoique, il y a quand même, j'ai lu ça aujourd'hui, je pense, 60 milliardaires qui ont, super milliardaires, dont, je pense, George Soros, c'est pour ça qu'il n'est pas venu, qui ont écrit au forum de Davos pour dire « imposez-nous, taxez-nous, c'est injuste ». Et par exemple, comment il s'appelle, non, c'est pas Madoff, l'autre, moi j'ai oublié son nom, un des grands milliardaires là, le son nom ne vous vient pas, non, ça ressemble à Madoff.
Jeff Bezos?
Non, surtout pas. Jeff Bezos, c'est comme Elon Musk et compagnie, c'est une autre catégorie. Mais il y a une catégorie de milliardaires comme ça qui sont plutôt conscients du fait que d'être milliardaire à ce point, ça nuit à l'économie. D'ailleurs, c'est une théorie, si vous voulez, on en parlera un de ces jours, d'un économiste qui s'appelle John Hobson, une théorie extrêmement bien élaborée qui montre comment plus il y a de milliardaires, plus l'économie va être détruite. Enfin, il n'est pas le seul depuis, mais bon, mais il a été celui qui a débuté ce raisonnement. Donc, ce milliardaire a dit, en écrivant avec 40, c'était 40 milliardaires qui avaient écrit à Clinton, je pense, ou à Bush, en leur disant, s'il vous plaît, parce qu'ils venaient d'annoncer qu'ils allaient encore baisser les impôts des riches alors qu'ils étaient déjà presque nuls. Bezos et machin, là, Elon Musk, qui paye 3% d'impôts. Moi, je paye 60% de mon salaire et de ma retraite. Bon, donc ce milliardaire a écrit, écoutez, taxez-nous, moi, super milliardaire, je paye moins d'impôts que ma femme de ménage. Alors voilà, donc oui, il y a des milliardaires qui soutiennent Davos et qui sont, bien entendu, c'est leur intérêt. Mais aujourd'hui, il y en a quand même 60. Il y en avait 40 du taux de Bush et de Clinton, maintenant il y en a 60. Parmi ces super, super, super milliardaires du 1%, qui disent, écoutez, il y en a marre, taxez-nous.
D'accord.
Taxez-nous.
D'accord. Voilà. Donc, pour la question, justement, de ce échec, si l'on peut dire les choses comme ça, de Davos, est-ce que vous pensez que c'est un changement dans les rapports de force dans le monde avec l'apparition de la Chine, de la Russie, et que ce bloc-là occidental qui gravite autour de ce genre de forum et ainsi de suite est en perte de vitesse et de pouvoir?
Formellement, oui. Mais malheureusement, concrètement, pas au même niveau. Alors, formellement, c'est clair. C'est clair que la mondialisation, d'ailleurs, ça va être parmi les trois thèmes que ce forum de Davos va essayer d'éplucher, hein, la fragmentation, la mondialisation qui a échoué, le climat et l'histoire des inégalités, etc. Et de la guerre et des guerres, de la guerre d'Ukraine, et bon, je pense que ça va tourner beaucoup autour de tout ça. Eh bien, c'est clair, la mondialisation est un échec depuis longtemps. Depuis la dévaluation du franc CFA, etc., etc. Bon, depuis ces temps-là, la déclaration de Nixon en août 1971, de la non-parité du dollar avec l'or pour l'appuyer sur le pétrole, etc., c'est un autre signe aussi de l'échec de la mondialisation qui était basée sur le dollar comme monnaie de fait de la mondialisation, mais qui avait besoin d'un autre étalon plutôt que l'or pour que les États-Unis ne soient pas obligés de payer en or les dollars qu'ils doivent à l'ensemble de la planète, etc. Donc oui, évidemment, ils vont devoir tabler avec tous ces échecs, mais ils vont les admettre de façon, je dirais, partiale et partielle. Alors, partiale dans le sens où ils vont continuer à dire, comme me l'a dit mon collègue économiste de HEC Montréal, dont je tairai le nom, qui est devenu après super ministre de l'économie ici au Québec et qui travaillait, lui, sur l'Argentine début des années 2000, alors que moi, je travaillais sur le Brésil. Il n'arrêtait pas de dire, en congrès, conférence, etc., etc., que l'Argentine, c'était le meilleur élève du FMI, que le peso argentin s'échangeait à parité avec le dollar américain, que c'était une réussite inouïe, qu'ils ont tout privatisé, toute l'Argentine appartient à l'Espagne, à l'Angleterre, au Canada, aux États-Unis, à la France, à l'Italie. C'est extraordinaire, c'est une extraordinaire réussite. Ils ont laissé rentrer tous les investissements directs étrangers, acheter tout en Argentine, tout va bien, tout va... Et un mois après, c'était le chaos de 2002. Je le rencontre dans l'ascenseur. Je lui dis, mais Martin, tu travaillais sur l'Argentine et jusqu'à il y a une semaine, tu nous disais que c'était le paradis de l'économie intelligente, néolibérale, super malin. Et là, c'est le chaos. Comment tu expliques ça? Qu'est-ce qu'il me répond? Nos théories sont bonnes, mais ces gens-là ne savent pas les appliquer. Alors voilà ce que c'est Davos. Davos, formellement, ne va pas céder là-dessus. Leurs théories sont bonnes et ils vont tenir à ça mordicus. Donc s'ils ne lâchent rien sur ces théories foncièrement néolibérales et inégalitaires, etc., etc., comme on le sait, eh bien, c'est donc partial et ça va être aussi partiel. Parce que tout ce qu'ils vont faire, ce que je veux dire par partiel, c'est que tout ce qu'ils vont faire, c'est admettre du bout des lèvres, qu'il y a quelques coins dans le monde où la théorie et la pratique de la mondialisation néolibérale a des difficultés à entrer. Bon, et des coins dans le monde où les autorités locales, comme l'a dit ce collègue sur l'Argentine, n'ont pas suivi exactement les directives des grands penseurs de Davos, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, etc., etc., de l'OMC, tout ce qui s'en suit. Voilà donc comment, comme toujours, voilà comment Davos va se sortir, se défausser habilement de toutes les difficultés que lui-même a créées, que ce néolibéralisme a créées. Ils vont admettre des échecs, ça c'est sûr, mais ils vont les admettre de façon, comme je viens de le dire, partiale, partielle.
Mais dans la réalité, Monsieur Aktouf, dans la réalité géopolitique, est-ce que ce pôle-là, le néolibéral et financier par excellence, est-ce que son pouvoir est en train d'être contesté par la Chine, par l'Iran, par la Russie, et via tout ce qui se passe actuellement?
Et par le rapport d'Oxfam. Le rapport d'Oxfam qui vient de sortir est absolument accablant. Les 1% les plus riches de ce monde ont doublé leur fortune dans les deux dernières années.
Durant la crise de Covid.
Pardon, durant les 10 dernières années, et dans les deux dernières années, ils les ont doublés.
Oui.
Ils ont augmenté de 40%. Dans les deux dernières années, ils ont augmenté de 40%, et dans les 10 dernières années, ils ont doublé le 1% le plus riche, c'est-à-dire ceux qui possèdent ce que devraient posséder 99% des habitants de la planète. Mm-hmm. C'est quand même... Alors, là... La Chine, etc., etc., même s'ils ont quelques milliardaires, ou la Russie, ou les pays qui essayent plus ou moins, ou tenter plus de sortir du néolibéralisme malgré la résistance, parce qu'il faut comprendre que les nomenclatures nouvellement riches, les nouveaux riches de ces pays-là, une bonne partie sont pour le néolibéralisme, c'est clair, parce que ça les arrange, une bonne partie. Mais heureusement que ces pays-là sont des pays à constitution communiste socialiste, sont des pays où il y a encore un pouvoir centralisé de l'État et de la représentation de l'État dans les régions, dans les clans, etc., dans l'économie, dans à peu près l'enseignement, tout ce qui concerne la vie pratiquement quotidienne des citoyens, qui font que ils limitent les dégâts que pourraient causer ces oligarques qui, par intérêt personnel immédiat, glisseraient vers le néolibéralisme. Bon, ben j'espère que les Poutine, les Xi, le président de Malaisie, après Mahathir, je ne sais pas s'il est toujours, mais il est trop vieux maintenant, donc ça doit être quelqu'un d'autre, etc., etc., vont tenir le coup. Et maintenant, Lula au Brésil, et vont tenir le coup, et Maduro, qui vient d'être reconnu après Guaido, donc au Venezuela, etc. Donc ces grands pays très riches, comme Venezuela, c'est la première richesse pétrolière du monde, donc que ces pays-là vont avoir suffisamment de résistance pour que ce nombre d'oligarques n'augmente pas à l'intérieur de leur propre population et viennent renforcer le rapport de force que détiennent les autres. Alors, l'échec, pour continuer, c'est que ils doivent donner des réponses au pourquoi de cette fragmentation, de cet échec de la mondialisation, qui est évident, au pourquoi du climat qui est en train d'annihiler toutes les croissances et augmentations de richesses qu'ils veulent et qui sont en train de clamer. Parce que, écoutez, imaginez juste un instant combien de dizaines d'années de PNB français faudrait-il pour payer, compenser, réhabiliter les dégâts causés par seulement les catastrophes ou les grandes perturbations climatiques en France depuis les 5 dernières années? Combien d'années de PNB leur faut-il? Macron a dit « quoi que ça coûte ». Oui, quoi que ça coûte, mais on voit déjà maintenant que même les banques auprès desquelles ils empruntent à des intérêts sûrement prohibitifs et auxquels ils doivent payer sur le dos du citoyen. Vous savez qu'en France, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, en France, aujourd'hui, chaque ménage français termine chaque mois, pas chaque ménage, un ménage sur cinq. Un ménage français sur cinq, chaque mois, est à découvert de 250 euros. Oui. Un ménage sur cinq.
Oui, ils épuisent leur salaire au bout de la deuxième semaine, à peu près.
Ou la troisième. Donc, qui va payer tous ces dégâts? Ce sera évidemment les peuples, etc. Alors, comment Davos va-t-il faire pour faire en sorte que ce soit ceux qui peuvent payer ces dégâts, les payent? Alors, c'est ce que Oxfam dit. Alors, Oxfam dit, il faut, un, taxer les riches très vite si on taxe les millionnaires de 1% de ce monde et les milliardaires de 4%, on va chercher pratiquement 45 000 milliards de dollars qui enlèveraient de la pauvreté 2 milliards d'individus de la planète. Tout de suite, 2% sur les milliardaires, 5% sur les milliardaires. Oxfam ajoute, à terme, donc d'ici 2030, je pense, il faudrait éliminer les milliardaires. Les éliminer complètement. Plus de milliardaires. À la limite des millionnaires. Alors pourquoi? Ben ça, ça peut s'expliquer par la fameuse théorie de cet économiste John Hobson. C'est le fait que l'enrichissement individuel infini, illimité, devient le cimetière du capitalisme. Et c'est lui qui l'a écrit. Pourquoi? Parce que plus vous avez de milliardaires et de milliardaires, 1%, qui possèdent de plus en plus toute la richesse de la planète, eh bien ça devient quelques centaines de personnes dans la planète qui ont de quoi acheter ce que cette planète produit. Or, ils ont tout. Ils ont 50 maisons, ils ont 200 voitures, ils ont 50 avions. Que voulez-vous qu'ils achètent? Tous ces riches qui détiennent 99 ou 90% de la richesse mondiale n'ont plus rien à acheter à l'économie mondiale. Ce qui fait que le reste devient insolvable. D'abord, c'est une mixture, une association incestueuse de riches, de théoriciens de la richesse et des riches, et de pays riches. Bon, tout ça, c'est entre eux. Alors, est-ce que vous imaginez...
Donc, est-ce que c'est par là que vous pouvez expliquer, ou vous expliquerez peut-être, cette opposition vraiment agressive, qu'elle soit politique, économique, financière et même militaire à l'égard de la Chine, de la Russie. Enfin, la Russie, au moins, le pays que je connais bien et qui veut garder un certain système de valeurs qui ne se dissout pas, qui refuse de se dissoudre dans cette idéologie du néolibéralisme, et garder quand même tous les secteurs stratégiques contrôlés avec la main de l'État.
Mais bien sûr, mais ça s'appelle la souveraineté de l'État et ça s'appelle aussi la culture. La Russie, la Chine, etc. ont des cultures infiniment plus collectivistes, plus communautaristes, enfin dans le sens de communauté, d'entraide, de soutien, de filets sociaux, etc., que les États-Unis ou la France ou l'Angleterre, mais la France de maintenant, hélas, la France d'avant, c'était mieux. Et donc, évidemment, c'est un danger mortel pour le complexe militaro-industriel, aujourd'hui mondialisé dans les pays du Nord et de l'Ouest. La Chine, l'exemple de la Chine, de la Russie ne doit pas être suivi, surtout pas. Alors ils sont en train de tout faire pour nuire ou contrôler ou circonscrire cette réussite russe et chinoise ou la baisser. Bon, donc on voit avec les problèmes de logistique, de transport, de conteneurs qu'on trouve plus, etc. Tout ça fait que bon, ça c'est toute une stratégie. Et cette guerre de l'Ukraine que on le sait bien, l'OTAN préparait depuis 2014, puisque les fortifications que l'Ukraine utilise aujourd'hui étaient construites en 2014, eh bien, on sait bien que tout ça est fait un pour les États du côté des États-Unis surtout, et là l'Europe est complètement dans les patates. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix. L'Europe sans les États-Unis, ils sont zéro rien. Bon, donc, et sans l'OTAN. Et l'OTAN, c'est les États, sans les États-Unis, bon, c'est la même chose. Donc, ils veulent faire d'une pierre X coups. je parle des États-Unis, c'est-à-dire faire avancer l'OTAN pratiquement jusqu'à l'Oural. Bon, deux, oui, s'ils pouvaient, oui, je vous jure qu'ils essaieraient, hein. Ils ne manqueraient pas d'essayer. Mais bon, évidemment, ils savent bien qu'ils ont en face une force qu'ils ne peuvent pas trop chatouiller. Et donc, ces pays-là ont intérêt à ce que ces exemples de Russie et de Chine ne soient suivis par personne. Et encore plus, donc, le complexe militaro-industriel, affaiblir l'Europe, comme ils l'ont fait pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est connu, c'est pour affaiblir l'Europe qui était la principale menace pour la puissance américaine naissante à l'époque. Et donc aujourd'hui, l'Europe aussi, unie, devient unie avec tous les problèmes qu'ils ont, est une menace. Donc affaiblir l'Europe, affaiblir l'Allemagne, surtout, affaiblir du même coup aussi la Russie, croyait-il. Bon, malheureusement, ils ont échoué à au moins 90%. On voit bien que la Russie réussit très bien à contourner toutes ces mesures pour l'affaiblir, notamment pour le gaz, pour les débouchés du gaz, pour etc., etc. Et le rouble et ce qui s'ensuit. Et donc, pour la Chine également, en prenant pour prétexte Taïwan. Alors, pour l'Europe, l'Allemagne, et la Russie, le prétexte, c'était l'Ukraine. Et là, pour la Chine, ben, c'est Taïwan qu'ils sont en train de préparer comme prétexte. Alors, Davos, comment il va s'en sortir là-dedans? Il est bien obligé, devant cette question de fragmentation évidente, et donc d'échec de cette mondialisation néolibérale, ils vont être bien obligés d'affronter les éléments et les moyens qui sont utilisés, qui ont été utilisés, qui devront être utilisés pour maintenir la mainmise et la puissance des pays du Nord et de l'Ouest. Ça, c'est clair. Les pays du Sud et de l'Est doivent être affaiblis. Comme l'avait dit Jules César à propos de Carthage, Cartago de l'Eda Est. Carthage doit être détruite. Bon, alors que Carthage n'avait rien fait. Mais bon, donc c'est ça. Tout ça doit être maintenu, les Nord et l'Ouest doivent être maintenus en état de puissance. Donc, ils vont être obligés d'aborder cette question de la guerre. Et je suis bien curieux, j'attends avec impatience qu'est-ce qui va sortir dans les communiqués officiels. Évidemment, bon, je ne parle pas de tout ce qui se passe en coulisses et en secret et dans les petits salons fermés, mais ils seront bien obligés d'aborder ce problème-là et sans doute d'admettre que, on le sait aujourd'hui, toutes ces armes qui sont massivement, bon, on sait bien, ceux qui affrontent la Russie aujourd'hui, c'est surtout pas l'Ukraine, c'est l'Occident tout entier. C'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est l'Italie, c'est l'Espagne. C'est, quand les Français envoient le char Leclerc, le canon César, les autres envoient le char Léopard, les autres le char Adams, etc., etc., on sait très bien qu'il n'y a pas un militaire ukrainien qui sait faire fonctionner ça. Et pour la maintenance de tout ça, il faut des spécialistes extrêmement bien formés. Ils sont pas en Ukraine, c'est pas des Ukrainiens, c'est pas des militaires ukrainiens. Donc, ce sont en même temps du matériel et des militaires occidentaux de tout l'Occident qui sont là en train de faire la guerre à la Russie. Et on sait aussi que beaucoup de ce matériel est en train de se vendre clandestinement et au marché noir par l'immense quantité de trafiquants que contient l'Ukraine. On sait que, avant la guerre, l'Ukraine, c'était un pays de trafiquants, à commencer par Volodymyr, qui trafiquait avec le fils de Biden. On le sait très bien. Et les maires de Kiev, qui sont deux anciens voyous boxeurs, bon, on sait très bien qu'est-ce qu'ils font, ou qu'est-ce qu'ils faisaient. Il y a des gens qui faisaient du trafic avec eux, qui apportent des témoignages. Donc, ils sont bien obligés de parler de tout ça. Alors, comment vont-ils freiner cette hémorragie de ces armes qui vont faire un objet de trafic énorme, qui est sans doute déjà énorme, et comment vont-ils pour répondre au fait que c'est l'Occident, avec les militaires occidentaux, qui font la guerre à la Russie?
D'accord. Ben, je vous remercie, monsieur Artouf, pour toutes ces informations et ce entretien passionnant, et j'espère vous retrouver dans un prochain entretien sur un autre sujet. Et au revoir.
Avec un grand plaisir.
C'était Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. L'édition 2023 du Forum de Davos est évidemment un échec à plusieurs titres, affirme le professeur Aktouf à l'Afrique en marche. En effet, selon lui, l'absence des dirigeants politiques les plus influents dans le monde, à l'instar de l'Américain Joe Biden, du Chinois Xi et du Russe Vladimir Poutine, mais aussi d'importants gourous de la finance à l'image de George Soros, sont déjà un signe que rien de sérieux ne sortira de cette rencontre. À cela s'ajoute l'incapacité de cette organisation à se remettre en cause et à proposer des moyens pratiques sérieux pour faire face aux problèmes cruciaux de l'humanité. Or, on ne le dira jamais assez, la mondialisation néolibérale est un lamentable échec planétaire à tout point de vue, affirme le professeur Aktouf, soulignant que le président Poutine et son homologue chinois ont entièrement raison dans le bilan qu'ils en tirent, appelant à un monde juste et multipolaire. Plus que jamais, il convient de limiter la puissance de la finance, de contrôler le capital et ses agissements et de mettre l'argent et le marché au service du bien-être général, conclut-il. C'était Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.